France Culture, il est midi et demi. À Paris, le journal de Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Les avocats des parents de Vincent Lambert sont attendus aujourd'hui au centre hospitalier de Reims pour vérifier la reprise au moins provisoire des traitements de leur fils, reprise ordonnée à la surprise générale hier par la cour d'appel de Paris. Dans un entretien à la presse régionale publié ce matin, Emmanuel Macron justifie sa présence en première ligne de la campagne pour les européennes, tout en essuyant une nouvelle salve de critiques de la part de ceux qui l'accusent d'abuser ainsi de sa position de président. En Indonésie, le président Widodo a proclamé ce matin sa victoire pour un second mandat à la tête du pays. La capitale a aussitôt été placée sous haute sécurité après la dénonciation par son adversaire de fraude de grande ampleur lors du scrutin. Et puis, nouveau rebondissement dans la bataille qui oppose Washington au géant chinois des télécoms Huawei. Hier, le département américain du commerce est revenu sur une partie des restrictions qu'il a imposé au groupe chinois. Pour en parler avec nous, nous serons en ligne avec Sébastien Jean, économiste au Centre d'études prospectives et d'information internationale. Faut-il encore parler de victoire ou de défaite? Parce que la vie semble à ce point imprévisible qu'il paraît décidément vain de prétendre en écrire la fin, même en cas de mort programmée. Mais aussi parce que personne, et notamment pas la loi, n'aura réussi jusqu'à présent à déterminer comment faire cesser la vie sans avoir à donner la mort. La décision hier de la Cour d'appel de Paris d'ordonner la reprise des traitements de Vincent Lambert aura surtout réussi à prouver combien le débat idéologique entre partisans du laisser-vivre d'un côté et ceux qui souhaitent avoir la liberté de choisir leur fin de vie de l'autre ne s'éteindra pas avec Vincent Lambert. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour.
Alors le maintien des traitements ordonnés à la surprise générale hier par la Cour d'appel de Paris vise à permettre à un comité de l'ONU d'étudier le dossier. C'est là l'énième coup de théâtre donc dans cette affaire qui a déjà connu nombre de rebondissements judiciaires depuis 2013 et qui en connaîtra peut-être d'autres. D'ailleurs, à ce titre, Antoine, les avocats de l'épouse de Vincent Lambert ont-ils des recours possibles?
Eh bien, cela semble compliqué car l'épouse n'était pas partie dans cette procédure en appel. Elle ne peut donc se pourvoir en cassation. Les parents de Vincent Lambert ont en effet poursuivi l'État français pour qu'il respecte un traité signé, traité qui le contraindrait à appliquer la décision du Comité international des droits des personnes handicapées. Cette instance de l'ONU a demandé la reprise provisoire des traitements pour Vincent Lambert. Gérard Chemla est l'avocat du neveu de François Lambert, favorable à un arrêt des traitements, et il va adresser un courrier au ministère des Affaires étrangères.
S'agissant de l'irrespect allégué d'un traité, la procédure a été menée contre l'État français, représenté par le ministère des Affaires étrangères, puisque c'est lui qui est la personne obligée à l'application et au respect du traité. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt d'en voir le bout, et puis ça veut dire qu'on est rentré dans un n'importe quoi judiciaire qui est assez hallucinant et très inquiétant. Ça veut aussi dire que les juges sont capables de tout, qu'il n'y a pas d'uniformité de la justice dans notre pays, et que finalement on peut toujours aller faire son marché ailleurs quand on n'est pas satisfait d'une première décision de justice. C'est assez déplorable, et je pense assez peu à l'honneur des magistrats qui rendent cette décision en plus en cachette. Je trouve ça vraiment dommage.
À noter que cette demande du CIDPH de reprise des traitements n'est que provisoire. Le temps pour cette instance d'étudier sur le fond le cas de Vincent Lambert. Et cela devrait prendre au moins 6 mois.
Merci Antoine Maret. Alors au centre de ce débat sur le droit de mourir, Vincent Lambert, bien malgré lui, est devenu tout à la fois l'objet d'une bataille judiciaire autant que d'une déchirure familiale. Hier soir, aussitôt la décision de la cour d'appel de Paris connue, quand la mère de Vincent Lambert a salué une très grande victoire, à l'inverse, son neveu François, favorable à l'arrêt des traitements, a lui dénoncé du sadisme pur. Une scission familiale décidément chaque jour plus béante, comme lorsque ce matin encore, l'avocat de Rachel Lambert, l'épouse du quadragénaire, a annoncé vouloir engager des actions contre des agissements inqualifiables, en l'occurrence la publication la veille d'une vidéo filmée par la mère de Vincent Lambert, vidéo tournée selon lui frauduleusement, puisque la tutrice de Vincent Lambert n'est autre que son épouse. S'agissant d'ailleurs de cette bataille familiale, toute la question tourne en réalité autour de ce que l'épouse de Vincent Lambert, qui entend mettre fin à ce qu'elle qualifie d'acharnement thérapeutique, affirme que son mari, ex-infirmier, rappelons-le, avait pris position justement contre tout acharnement thérapeutique, sauf que Vincent Lambert n'avait pas laissé de directive anticipée écrite en ce sens. D'où cette question, aurait-on assisté à de telles déchirures dans d'autres pays, comme par exemple en Belgique, pays où l'euthanasie est légalisée? Angélique Boin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Alors, précision importante, Angélique. Chez nos voisins, ce n'est pas la loi sur l'euthanasie qui aurait été, en l'occurrence, appliquée, mais celle sur le droit des patients, comme en France, sauf qu'elle est plus codifiée.
Oui, en effet, car pour bénéficier d'une euthanasie ici en Belgique, il faut soit le demander en toute conscience, soit l'avoir exprimé par écrit avant. Or, ce n'était pas le cas de Vincent Lambert. Le droit des patients belges s'appliquerait donc. Et la différence de taille entre nos deux pays, c'est le fait qu'il y a ici un mécanisme de hiérarchie. Si le malade n'a pas désigné une personne de confiance avant sa maladie, c'est juridiquement son partenaire cohabitant, autrement dit son conjoint qui est prioritaire, puis les enfants majeurs, les parents et enfin, en dernier recours, les frères et sœurs. Dans le cas de Vincent Lambert, cela a donc été son épouse qui aurait pris la décision d'arrêt des soins avec le corps médical. Alors, aurait-on pour autant exclu totalement le point de vue des parents? Non. Selon plusieurs experts consultés, il y aurait bien eu des concertations et une tentative de médiation, mais le conjoint reste bien ici le principal interlocuteur. Y aurait-il eu alors autant de possibilités de recours judiciaire? J'ai posé la question à Jacqueline Hermans, membre du comité consultatif de bioéthique et présidente de l'association du droit à mourir dans la dignité en Belgique.
Aucun recours, on ne peut l'éviter. Mais en tout cas, la solution juridique aurait été rapidement mise en place et il n'y aurait pas eu cette kyrielle de procédures en tous sens qui font que le climat n'a fait que se détériorer. Certes, on aurait bien sûr dialogué avec les parents, mais cela aurait abouti à une solution que les parents soient d'accord ou pas.
Un point de vue partagé par Gilles Génicot, professeur de droit médical à Liège et co-président de la commission de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie. Certains avocats ont de l'imagination, précise-t-il, et auraient bien pu faire des recours, mais le système juridique belge en permet moins, selon lui. Et les recours de ce type sont très rares. Ce qui est plus courant ici, ce sont des procédures en responsabilité après la mort du patient.
Merci Angélique Bouin, en direct de Bruxelles. Parce qu'à quelques jours maintenant des élections européennes, l'alerte rouge a été donnée dans le camp présidentiel contre le risque de voir arriver le Rassemblement national en tête dimanche prochain, mais aussi contre le risque de voir les urnes désertées après qu'on a appris hier lors d'un sondage que seuls 56% des sympathisants de La République En Marche et 50% de ceux du Modem étaient certains d'aller voter. Eh bien, la majorité fait désormais feu de tout bois quand le Premier ministre est attendu aujourd'hui à Valenciennes après un déplacement déjà la veille à Vesoul et avant de se rendre jeudi prochain à Orléans. Nathalie Loiseau, tête de liste du parti présidentiel, s'est pour sa part encore évertuée hier soir lors d'un débat tendu à la télévision à défendre le bilan de l'exécutif. Et puis parce que le chef de l'État lui-même s'est lui aussi personnellement engagé dans cette campagne, au risque de faire passer ce scrutin pour un troisième tour de la présidentielle, mais aussi d'abuser, du moins selon ses détracteurs, de sa position de président, Emmanuel Macron a décidé de prendre la plume ce matin afin d'expliquer pourquoi il ne peut pas, je cite, être un spectateur mais un acteur de cette élection européenne. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, tout en arguant d'un risque existentiel de dislocation de l'Europe, le chef de l'État explique qu'il aurait une responsabilité devant l'histoire s'il ne montait pas en première ligne. Sauf qu'on comprend bien là la contradiction qu'il y a à vouloir démonter les arguments de ceux qui l'accusent de parasiter le scrutin en publiant une tribune. Et d'ailleurs, certains dans les rangs de l'opposition ne s'y sont pas trompés puisqu'ils sollicitent un droit de réponse. Quoi qu'il en soit, cette surexposition donc du chef de l'État témoigne surtout, Stéphane, d'une vraie fébrilité.
Oui, alors il s'agit d'une interview qu'il a accordée à 9 journalistes de la presse quotidienne régionale. Même s'il a essayé de faire bonne figure hier soir devant ces 9 journalistes qu'Emmanuel Macron avait convié à l'Élysée, il leur a expliqué qu'il était heureux et enthousiaste à l'approche du scrutin, qu'il s'impliquait dans cette campagne pour inciter les Français à aller voter et parce que c'était cohérent avec le projet européen qu'il porte depuis 2 ans, qu'il ne s'agit pas du tout de reprendre les choses en main dans une campagne qui patine. En face, nos confrères de la presse écrite ont pourtant bien perçu l'inquiétude du chef de l'État. Christelle Bertrand est la correspondante à Paris de la Dépêche du Midi.
On le sent préoccupé. À la fois, il a parlé d'Europe avec beaucoup de passion, avec un grand sourire. On connaît Emmanuel Macron maintenant, depuis 2 ans, c'est quelqu'un de très positif et qui veut garder cet optimisme. Il nous a beaucoup dit que l'Europe n'était pas morte, que des liens pouvaient se recréer, mais qu'elle était fragile. On le sent inquiet que la liste du Rassemblement national arrive en tête. Il a dit qu'il ne voulait pas s'inscrire dans ce schéma-là, mais on le sent préoccupé, et cette interview d'ailleurs le démontre.
dans cette interview, Emmanuel Macron explique que cette élection est la plus importante depuis 1979, date de la première élection au suffrage universel. Il parle d'un scrutin existentiel, d'un risque de dislocation de l'Europe. Bref, il dramatise l'enjeu à outrance à travers la mise en scène d'un affrontement entre lui, qui aurait pour ambition de continuer à construire l'Union européenne, et ceux qui veulent la détruire, à savoir le populisme nationaliste incarné en France par Marine Le Pen et le Rassemblement national. On voit qu'il y a chez lui une volonté de rejouer le match dont il était sorti victorieux en 2017 face à Marine Le Pen. C'est pour ça qu'il monte, lui, en première ligne, en se substituant presque à la tête de liste Nathalie Loiseau, qui ne réussit pas à s'imposer dans cette campagne. Pour Emmanuel Macron, ce qui se joue là, c'est sa capacité d'action au niveau national pour les trois années à venir, et donc en partie son éventuelle réélection en 2022, et puis sa crédibilité en tant que leader d'une Europe qu'il entend remettre sur les rails.
Merci Stéphane Robert. L'Assemblée nationale a donné hier soir son feu vert à une expérimentation durant 5 ans des ruptures conventionnelles dans la fonction publique. Ce dispositif, créé, rappelons-le, en 2008 sous le gouvernement Fillon et qui constitue aux yeux de la droite un réel succès dans le privé, doit entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2020 pour les fonctionnaires comme pour les contractuels en CDI. Anne Lorchouin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors l'objectif affiché est de permettre aux agents qu'ils souhaitent de démissionner dans de meilleures conditions, que ce soit à travers une prime de départ ou une allocation de retour à l'emploi, mais au-delà, c'est expérimentation témoigne surtout d'une volonté de plus en plus manifeste aujourd'hui d'adapter à la fonction publique le modèle du secteur privé.
Oui, volonté manifeste et même assumée lorsque le gouvernement avait chargé l'année dernière le comité Action publique 2022 d'un rapport sur la meilleure façon de réformer la fonction publique avec comme but d'en réduire le coût. L'objectif était déjà clair, moderniser cette fonction publique. Pour ses experts, c'était rapprocher son fonctionnement du privé. Même si le texte actuel a pris en compte ces dernières semaines quelques modifications proposées par les syndicats. La rupture conventionnelle sera donc, vous l'avez dit, expérimentée jusqu'en 2025 pour permettre aux agents qui le souhaitent de partir en ayant droit, comme leurs collègues du privé, à une prime de départ et à une allocation chômage. Jusqu'à présent, la seule option pour un fonctionnaire ou un contractuel en CDI était de démissionner. Les craintes, elles viennent de la gauche et elles portent sur de possibles effets pervers de cette mesure. Est-ce qu'elle est bien constitutionnel, les agents de la fonction publique étant liés par une relation particulière de sujétion? Est-ce qu'elle n'aura pas pour conséquence de vider les hôpitaux publics où les conditions de travail sont parfois rudes, les heures supplémentaires payées avec beaucoup de retard? Est-ce que cette mesure, paradoxalement, ne va pas coûter très cher à l'employeur public tenu de payer des primes de départ? Un amendement LREM a été adopté qui prévoit ainsi le remboursement de cette prime de départ si l'agent revient dans la fonction publique dans un délai de 6 ans. Autre rapprochement avec les pratiques en cours dans le secteur privé, la fusion des instances syndicales, flexibilité toujours avec la création de l'équivalent du contrat de chantier dans le privé, un contrat de projet dans la fonction publique, et puis le fameux recours accru aux contractuels qui représente, rappelons-le, déjà aujourd'hui près d'1 million d'agents, soit 18 à 19% du total, principalement dans le secteur de l'école et de la santé.
Merci Anne-Laure Chouin. Le Sénat entame à partir d'aujourd'hui l'examen en première lecture du projet de taxe sur les géants du numérique, la taxe GAFA, déjà adoptée à l'Assemblée nationale, s'inspire en réalité assez largement d'un projet européen, mais qui n'a pas abouti du fait de la réticence de certains États membres, dont l'Irlande, la Suède, le Danemark ou bien encore la Finlande. En ce sens, ce projet doit donc faire de la France un des pays pionniers en la matière, et ce, en dépit de l'opposition des États-Unis. C'est la dernière manche dans la guerre froide technologique que se livrent cette fois-ci les États-Unis et la Chine sur fond de tensions commerciales. Ce matin, le fondateur du géant chinois de télécom Huawei a déclaré que les États-Unis sous-estimaient son entreprise et a promis que son programme de développement de la 5G ne serait pas affecté par les mesures américaines visant à le bloquer. Pour évoquer donc ce duel de titans entre Washington d'un côté et Pékin de l'autre, invité de la rédaction aujourd'hui, Sébastien Jean, économiste au Centre d'études prospectives et d'information internationale. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors rappelons tout d'abord que la semaine dernière, Donald Trump avait décidé d'interdire les exportations de produits technologiques américains vers certaines entreprises jugées à risque pour la sécurité nationale, parmi lesquelles Huawei, clairement dans le collimateur du président américain. Sauf qu'hier, les autorités américaines ont semblé vouloir calmer le jeu en décrétant un délai de 90 jours avant d'imposer leurs sanctions, le temps notamment que Huawei et ses partenaires commerciaux s'adaptent. Or ce matin, semblant donc ignorer l'espèce de faveur que, dans leur grande bonté, les États-Unis seraient prêts à lui accorder, le président du groupe chinois bombe à son tour le torse. Que faut-il comprendre, Sébastien Jean, à ce match de boxeur à distance ?
Alors, je crois qu'il y a un mélange au fond de bluff et de stratégie de négociation, et il faut bien le dire aussi, je crois, d'une partie d'improvisation. C'est-à-dire que on a vu à la suite de cette annonce d'interdiction de commercer avec Huawei, une réaction forte d'un certain nombre d'entreprises américaines. D'une part, une réaction des bourses, hein, avec des entreprises comme Qualcomm, le géant des microprocesseurs, qui a perdu 5% en bourse au moment de l'annonce. Et puis aussi des groupes qui, collectivement, ont appelé le gouvernement à travailler avec l'industrie, à écouter le secteur et à ne pas agir seul. Donc, il y a peut-être une partie, de réalisation des impacts de ce qui a été décidé pour l'industrie, qui se matérialise dans les réactions, dans ce répit qui est accordé. Et dans le même temps, il reste constant derrière cette volonté de mettre la pression sur la Chine, cette situation aussi où objectivement on se trouve aujourd'hui, où les attentes qui ont été créées par les discours extrêmement protectionnistes et extrêmement offensifs vis-à-vis de la Chine sont très importantes.
Vous parliez d'improvisation, est-ce que cela signifie que ces tergiversations finalement reflètent l'absence véritable de stratégie à la Maison-Blanche ?
Disons que je pense que l'objectif stratégique d'essayer de faire pression sur la Chine et puis de structurer finalement la politique avec la Chine autour de la rivalité technologique et stratégique entre les deux pays, celle-là elle est assez claire. Maintenant, c'est aussi un rappel à la réalité d'une industrie qui est extrêmement entremêlés entre les différents pays. Donc on parle souvent de découplage en ce moment aux États-Unis, mais c'est pas aussi simple, hein, parce que il y a un nombre immense une immense complexité de l'industrie, énormément de fournisseurs différents, certains et donc les industriels chinois et États-Unis travaillent ensemble et travaillent avec beaucoup d'autres pays, hein, et très étroitement avec ceux de Taïwan, de Corée, de Japon et beaucoup d'autres encore, y compris en Europe. Donc je pense que c'est aussi une rencontre avec la réalité d'une industrie très complexe.
Et est-ce que c'est là la raison pour laquelle l'effet boomerang finalement pourrait s'avérer désastreux pour les États-Unis à terme ?
En tout cas, l'effet boomerang, il existe, hein, le coût pour les entreprises américaines existe, hein, si bien que dans l'immédiat, c'est une confrontation à laquelle personne ne va gagner, hein, ça va faire des perdants des deux côtés. La question, c'est de savoir si le prix stratégique, hein, la direction stratégique qui est prise, vaut la peine de faire ces sacrifices. Et ici, ben, c'est pour ça que je vous dis l'arrière-plan, c'est la rivalité technologique. Et la question moi que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on n'est pas à un point de bifurcation? Est-ce qu'il existe encore un retour en arrière? C'est-à-dire que là, il y avait cette négociation commerciale et on voit qu'ici, on est vraiment dans un affrontement autour de questions stratégiques, de questions de technologie. Et donc, est-ce qu'il y a encore de la place pour un accord, pour transiger? Visiblement, l'administration américaine quand même essaie de ménager ça, hein, sur les droits de douane qui ont été annoncés la semaine dernière. En fait, ils ne seront actifs qu'au 1er juin, en pratique, pour l'essentiel. Les sanctions contre Huawei, on les repousse de 3 mois. C'est une façon aussi de laisser une petite place pour un accord, parce que il y a quand même, je crois, la conscience que ça serait bien préférable pour tout le monde. Maintenant, la pression qui a été mise rend de plus en plus difficile de trouver un accord, parce qu'il faut aussi que les Chinois puissent sauver la face et montrer que c'est un accord profitable à tout le monde.
Au-delà de la bataille technologique, les États-Unis avancent l'idée que Huawei pourrait finalement jouer le rôle d'espion. Qu'est-ce qui permettrait aujourd'hui de l'affirmer ?
Écoutez, je pense que au fond, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Rien n'a été prouvé jusqu'ici. Je dirais au fond que, ironiquement, les États-Unis sont d'autant mieux placés pour avoir ce genre de soupçon qu'on a appris avec l'affaire avec les fuites WikiLeaks, l'affaire Snowden, que les États-Unis eux-mêmes avaient mis des backdoors, donc des entrées, des possibilités d'espionnage sur les équipements Cisco et qui s'en étaient servis, y compris pour faire de l'espionnage économique auprès des Européens. Donc, ils peuvent d'autant plus facilement avoir ce genre de soupçons qu'ils l'ont pratiqué eux-mêmes. Maintenant, la réalité des faits est très difficile à établir.
Merci Sébastien Jean, économiste, je le rappelle, au Centre d'études prospectives et d'information internationale, d'avoir répondu à nos questions. Sans surprise, le président indonésien sortant Joko Widodo a été élu pour un second mandat à la tête de la troisième démocratie au monde. Avec 55,5% des voix, il devance de plus de 10 points son adversaire, l'ex-général Subianto, et remporte ce scrutin avec une avance d'ailleurs plus nette encore qu'en 2014. Pour autant, le risque de fracture dans le pays existe bel et bien, et d'ailleurs initialement la publication officielle des résultats n'était pas attendue avant demain, sauf que par crainte de troubles et en particulier de manifestations de l'opposition, eh bien la commission électorale a finalement choisi de les avancer et de les annoncer donc en pleine nuit. Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors en réalité, avant même que les résultats officiels ne soient connus, Subianto, qui depuis une quinzaine d'années maintenant rêve de parvenir au pouvoir, avait déjà menacé de faire descendre ses partisans dans la rue, mais plus encore dans un pays où l'islam conservateur progresse, eh bien davantage que les rassemblements de l'opposition, les autorités redoutent des actes de terrorisme.
Oui, les jours à venir vont être vraiment très importants en Indonésie. Tout va se jouer sur la reconnaissance ou non de la victoire du président sortant par l'opposition et par son principal adversaire, l'ex-général Subianto, vous l'avez dit. Pour l'instant, son équipe a refusé de signer les documents officiels qui doivent entériner l'élection. Elle estime que le scrutin est entaché de fraude, d'injustice, d'abus en tout genre. Elle dispose de 3 jours pour déposer des recours devant la Cour constitutionnelle du pays, comme elle l'avait fait sans succès il y a 5 ans lors des dernières échéances électorales. Pour l'heure, c'est donc le président sortant, Widodo, qui l'emporte avec plus de 85 millions de voix, mais la partie n'est pas pour autant gagnée, car un risque d'éclatement de la société est possible. Widodo représente un islam modéré dans un pays musulman, le plus important au monde, grand comme 4 fois la France et qui rassemble sur plus de 13 000 îles, 262 millions d'habitants. Or, face à lui se présentait donc cet ex-général, un homme à poigne, un défenseur d'un islam plus dur et conservateur, proche de certains groupes islamiques les plus radicaux. C'est ainsi que depuis quelques semaines, la police indonésienne a indiqué avoir procédé à de nombreuses arrestations d'individus proches de l'organisation djihadiste État islamique, des personnes suspectées de vouloir commettre des attentats sur le territoire. La crainte majeure serait que l'Indonésie soit à nouveau fragilisée et déstabilisée par des attaques terroristes qui viendraient fracturer le pays. Le risque est tellement important que des organisations musulmanes influentes se sont exprimées pour demander aux Indonésiens de reconnaître les résultats. Autant dire que les prochaines heures et prochains jours seront donc déterminants.
Merci Nathanaël Charbonnier. En Algérie, Gaïd Salah, le chef d'état-major de l'armée, a réaffirmé hier son opposition à un changement radical au cœur de l'État, exigé le départ de l'ensemble des personnalités symbolisant le système hérité du président déchu est irraisonnable, voire dangereux, a-t-il déclaré. Ou quand celui qui a précipité le départ du pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika rejette à présent la principale revendication du mouvement de contestation populaire. La coalition gouvernementale droite-extrême droite a vécu en Autriche. Tous les ministres issus du parti de la Liberté FPE ont annoncé hier leur décision de quitter le gouvernement après le limogeage du ministre de l'Intérieur, conséquence directe du scandale qui samedi dernier déjà avait emporté le vice-chancelier et dirigeant de la formation d'extrême droite Heinz Christian Strache. Alors aujourd'hui, le chancelier conservateur Sébastien Kurz devrait proposer au président de nommer des experts pour remplacer donc les ministres d'extrême droite et assurer ainsi l'intérim jusqu'aux prochaines élections anticipées. Et ultime effet de ce séisme politique, on a appris qu'une motion de censure serait également présentée lundi prochain par l'opposition contre le chancelier. Les précisions viennent de notre correspondante Isor Yass.
Herbert Kickl, membre influent du parti d'extrême droite, a laissé entendre dans une interview ce matin que le FPE pourrait soutenir la motion de défiance que le petit parti écologiste Jetzt prévoit de déposer et qui vise à renverser le chancelier Sebastian Kurz et ainsi l'empêcher de gouverner jusqu'à la tenue des élections législatives anticipées. Sauf qu'Herbert Kickl a été démenti quelques heures après la parution de l'interview par un porte-parole du FPE qui assure qu'il n'y a pas encore de décision à ce sujet. Les propos d'Herbert Kickl aurait été mal interprété selon le parti d'extrême droite. Les spéculations vont bon train autour de cette motion de défiance qui devrait être déposée dans les jours à venir. La presse autrichienne évoque la journée de lundi prochain. Toute la question est de savoir si elle peut être approuvée par une majorité. Le parti d'opposition Neos a clairement dit qu'il ne la voterait pas pour permettre une certaine stabilité en Autriche. Les sociodémocrates, en revanche, exigent un gouvernement entièrement composé d'experts. Le départ des ministres FPE ne leur suffit pas. Le parti n'a toutefois pas encore pris position sur cette possible motion, le FPE non plus. Or, la décision de ces deux partis est importante car elle tranchera le sort de cette motion de défiance.
Il avait promis de vouloir transformer son pays. Hier, à peine intronisé, Volodymyr Zelensky, devenu à 41 ans le plus jeune président de l'Ukraine post-soviétique, a non seulement annoncé des législatives anticipées, mais également prié les députés de voter la fin de leur immunité. On termine avec un mot rapide de météo. Le temps de cet après-midi sera encore bien nuageux sur l'ensemble du territoire, mais avec moins d'averses. Les températures en légère hausse, elles atteindront entre 17 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Julien Loquet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.